Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Réveil culturel. Tous les vendredis, c'est l'actualité de la bande dessinée et aujourd'hui, je reçois Nil Antico et Grégoire Carlet, respectivement la scénariste et le dessinateur d'Ilité deux fois Arthur, un album de bande dessinée de plus de 150 pages édité par Dupuis dans la collection Air Libre. Le Réveil culturel est préparé avec la complicité de Corinne Amar, la réalisation de Vincent Abouchard, avec ce matin à la prise de son Delphine Baudet.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Il était deux fois Arthur, donc. À ma gauche, Jack Arthur Johnson, premier champion de boxe noir américain. Et à ma droite, Arthur Cravan, le scandaleux et poète, et même boxeur, suisse ou anglo-suisse, neveu d'Oscar Wilde en tout cas, et dadaïste avant l'heure, deux aventuriers qui vont se retrouver à Barcelone au début du siècle dans un drôle de chassé-croisé, puisque l'un fuyait l'Amérique et l'autre voulait s'y exiler, et surtout autour d'un drôle de combat vendu comme le combat du siècle. Mais avant de développer l'histoire de cette rencontre et de ce match de boxe avec Nil Antico, la scénariste, s'il fallait décrire les deux protagonistes, Grégoire Carlet, bonjour. Vous qui les avez dessinés à votre manière, à coups de traits de pinceau et de plumes, mais sans doute après avoir visionné des photos, des documents, quelques films, parce qu'il y a quelques films des combats de Johnson.
Bonjour. Alors, pour les décrire succinctement, sont deux personnages déjà très grands. Cravan faisait plus de 2 mètres déjà. Johnson était aussi très très grand. Mais on a deux personnages très sculpturaux et très beaux, très dandys tous les deux aussi. Johnson, malgré son gabarit, avait vraiment beaucoup d'élégance quand même. Quand on le voit, c'était quelqu'un avec des épaules très larges, mais des jambes assez longues et fines. Et il ressemblait pas du tout à une grosse machine à cogner comme on pourrait le penser. Et Cravan, lui, ressemble plus à un bonhomme en guimauve. Et je pense que c'est pas pour rien qu'il se cachait souvent sous un énorme manteau de fourrure. C'est un immense bonhomme, un petit peu désarticulé, plutôt maigrichon en fait. Et donc, ce sont deux personnages qui finalement ont tout de l'alter ego, ou plutôt du double infernal peut-être aussi.
Puisque ouais. Le noir se rêvait blanc et le blanc voulait être noir.
Se rêver noir, évidemment, ouais. Ouais, ouais.
Comment définir vos dessins? Ils sont semi-réalistes?
Oui, on peut dire ça. Après, je privilégie aussi quand même beaucoup une touche expressionniste. Comme on a affaire à beaucoup de... C'est une bande dessinée, je pense, avec un rythme assez élevé, assez rapide. Évidemment, il s'agit de personnages historiques. Il faut rester proche d'un certain... Enfin, il faut rester proche des origines. Mais... J'ai aussi voulu quand même par une touche assez vive essayer de retranscrire l'énergie qui pouvait habiter ces personnages-là.
Il était deux fois Arthur, c'est aussi une bande dessinée avec un troisième personnage.
Exactement.
S'il fallait parler de ce singe.
Alors Bobo, c'était un des nombreux singes qui s'appelait Consul, qui avait été élevé au début du siècle. Et qu'on trouvait que c'était des espèces de jouets de bourgeois ou qui faisaient les pitres dans des zoos. C'est des singes savants, il y en avait plusieurs en fait, ils s'appelaient tous consuls. Et donc Bobo qui va être une espèce de... Bon déjà c'est... je sais pas si je peux le spoiler... Oui, enfin je vais spoiler un peu le bouquin, mais c'est la voix off du livre. Il fait office, il a plusieurs rôles, il joue plusieurs rôles. Il a un rôle de passeur entre les personnages, un rôle de charnière. Et aussi un rôle de Deus ex machina. Enfin, c'est aussi par lui que le dénouement va s'amener dans le livre, dans le récit.
Et pour dessiner cette histoire, il était deux fois Arthur. Pour revenir sur Jack Arthur Johnson, le premier champion de boxe noir américain, et d'Arthur Cravan, vous êtes vraiment imprégné de leur histoire, parce que ce que raconte en fait la bande dessinée, c'est une partie, de la vie de ces deux hommes. Donc, ça commence par la vie de Jack Arthur Johnson. Ensuite, c'est la vie d'Arthur Cravant. Et au milieu, c'est le moment où ils vont se rencontrer pour un drôle de match, pour un drôle de deal. Il fallait connaître toute l'histoire des deux personnages.
Ah, c'est une histoire tellement, enfin, ils ont tous les deux une histoire tellement à la fois brève, mais riche, qui fait qu'on peut pas forcément maîtriser évidemment tous les paramètres, c'était, et même si on n'a pas tout raconté avec Nine, on s'est plongé avec beaucoup d'ardeur dans les recherches, dans les lectures, et puis aussi pour ramasser une bonne source iconographique aussi, moi, pour mes besoins de dessin, évidemment, puisqu'il s'agit de faits qui se sont déroulés, donc il fallait quand même coller au plus près à l'histoire et à l'iconographie, au visuel, à l'esthétique, quoi.
In the 11th round, Johnson smashes Ketchel all over the ring. Now round 12, Colma, California, October 16th, 1909. Johnson is down! It was a terrific right to the jaw! The referee's count seems fast. Johnson's up at 8. He's mad. Ketchel's excited, comes in wide open, takes a right square in the jaw. They're both down. Johnson gets up and the referee counts over Ketchel.
Et on vous retrouve, l'Identico, pour cette rentrée, mais cette fois-ci, vous n'êtes pas dessinatrice. Vous êtes scénariste d'une bande dessinée qui a pour titre « Il était deux fois Arthur ».
Il était deux fois Arthur, ça parle de Jack Johnson, qui est le premier champion du monde noir
de
boxeur, poids lourd, à avoir remporté le titre et avoir battu un blanc. Ça, c'était en 1910, donc il a vraiment défrayé la chronique. C'est un modèle, par exemple, pour Mohamed Ali. Et Arthur Cravant, c'est un boxeur amateur qui était surtout poète, insolent. L'insolence, ils ont vraiment ça en commun, et une liberté de ton, une liberté de vie qui a fait qu'ils se sont croisés pour un match mythique en 1916 à Barcelone. Et moi, j'en fais le pilier de mon livre. En fait, c'est ça qui m'a donné envie de raconter leur histoire, parce qu'ils sont connus séparément, ces deux géants. Et ils sont connus pour ce match à Barcelone, qui était un peu considéré comme une performance, au sens que c'était presque un match truqué entre un vrai champion du monde et une espèce de boxeur un peu autoproclamé. Et il leur a permis à tous les deux de fuir, de gagner de l'argent pour fuir leur continent. Jack Johnson fuit les États-Unis parce qu'il allait faire de la prison. On avait fait tomber la loi Mann pour l'incriminer parce qu'il sortait avec des blanches, il les épousait, et on avait trouvé cette loi qui interdisait le transport des prostituées d'un État à un autre pour le faire tomber. Donc il a fui les États-Unis pour l'Europe. Et Arthur Cravant, lui, voulait fuir l'Europe pour ne pas être soldat pendant la Première Guerre. Et donc, mon livre, j'ai décidé qu'au milieu, il y aurait ce match entre deux, que la première partie serait celle de Jack Johnson, pardon, et qu'ensuite, après le match, on repartirait aux États-Unis avec Arthur Cravant. Pourquoi cette histoire ? Eh bien, c'est deux hommes qui parlent d'une quête de liberté, deux hommes qu'on peut considérer comme très égoïstes, mais qui ont beaucoup influencé les gens à leur façon. Et j'aimais bien le procédé narratif qui, pour moi je le synthétise comme ça. C'est en gros Jack Johnson, un noir qui se prenait pour un blanc, et Arthur Cravant, un blanc qui se prenait pour un noir. Et vraiment, pour moi, ils interrogent... Il y a aussi un personnage de chimpanzé qui est très important dans le livre et qui fait le lien entre deux. Et les chimpanzés qui étaient domestiqués à cette époque-là et qu'on sortait de leur jungle pour ensuite les mettre sur des scènes de théâtre comme aux Folies Bergères, pour ensuite les foutre aux eaux et qui crevaient derrière les barreaux et qui savaient plus du tout qui ils étaient. Et moi, vraiment, le but avec cette bande dessinée, c'était d'interroger deux hommes qui ont écarté les barreaux, quoi, qui sont sortis des cases et qui n'ont pas voulu correspondre à la vie qu'on attendait qu'ils mènent.
Comment êtes-vous arrivé à cette histoire, Nine Antico?
Eh bien, je suis allée au Mexique pour faire une petite résidence, et on m'a offert un livre de Patrick Deville, Villa, dans lequel il parlait, l'auteur Patrick Deville, de trajectoire autant de Trotsky, de Frida Kahlo, enfin de tout l'intelligentsia intellectuelle et artistique qui rôdait au Mexique à cette époque-là, au début du XXe siècle. Et il y avait des passages sur Arthur Cravant. Et parallèlement, Jack Johnson, comme j'ai fait un peu de boxe, alors tout à fait en amateur, hein, mais ça m'intéresse un petit peu la boxe. Et Jack Johnson est très connu, il a vraiment marqué l'histoire du sport et l'histoire globale, quoi, parce qu'il a été une icône pour les Noirs qui se sont pour la première fois sentis valorisés. La boxe était vraiment le seul sport et le seul moyen d'émerger à cette époque-là pour les pauvres, pour les Noirs, pour les Mexicains.
C'est la première fois que vous vous intéressez aux hommes.
Oui, c'est vrai. C'est la première fois, et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai pas dessiné. Par contre, c'est parce que je savais que j'avais moins de. J'adore regarder ces hommes-là, les photographies. Quand on les voit, on a envie de les dessiner, mais je savais que je serais pas la meilleure personne pour le faire.
Comment on
le sait? Bah, c'est très simple. Hein. C'est comme de savoir si on aime cuisiner ou je parle beaucoup de cuisine d'ailleurs. Pourtant, j'aime pas trop ça. Mais j'avais aussi très envie. Ça vient aussi de là, de faire du scénario. En fait, moi, c'est quand même la partie du travail que je trouve géniale en bande dessinée. Et finalement, le dessin est une finalité pour être lu, que j'essaye de faire au mieux pour avoir moi-même envie de lire mes histoires. Mais là, je savais que j'avais envie de tester cet exercice et ça m'a vraiment beaucoup plu. Et puis de travailler avec Grégoire aussi, ça a été...
C'est vous qui avez choisi Grégoire oui. Carlet pour dessiner
oui,
cette
en
histoire?
Oui, on est amis, on était en atelier ensemble quand on était à Paris. Maintenant, on a déménagé respectivement, lui à Strasbourg et moi à Marseille. Mais on se connaissait bien. Il m'avait vu commencer à réfléchir à cette bande dessinée il y a 7 ans, quelque chose comme ça, je lui en avais parlé. Et voilà, le temps que certains projets se règlent, enfin se terminent pour lui comme pour moi, j'étais sûre que son trait allait magnifier l'histoire et c'est le cas.
Et vous lui avez donné un scénario avec des indications pour tout ce qui est découpage,
un storyboard. Aussi, ouais.
Bon.
Mais qu'il a vraiment sublimé, parce que moi je donnais pas beaucoup de place au décor, je dessinais beaucoup les personnages et les dialogues dans les cases, enfin c'était surtout là que jouait le découpage, mais lui il a vraiment, voilà, il s'est libéré de ça aussi, quoi. C'était la base sur laquelle il se lançait.
S'il n'y avait pas ce premier long métrage à réaliser et que vous venez de réaliser, Playlist, Nina Antico, vous auriez dessiné, il était deux fois Arthur?
Non.
Ah, en tant que ça,
je sais quel prochain livre j'ai envie de faire tout seul, par exemple, mais
ce serait quoi?
Et c'est un livre qui va se passer en Italie, en Sicile et à Naples, qui va s'appeler Madone et Putain.
D'accord. Donc,
là,
donc avec
j'ai
des
envie
femmes,
de dessiner.
Parce que ce sont
des madones, des putains, c'est pour moi.
Merci Nina Antico.
Merci.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Ce soir, il prendra les 400 coups. À ta chute ou à sa perte, les paris vont doubler. Être une star à la sueur de son cœur, le corps marqué par l'absence de la peur. Il s'agit pas de chats violents, juste des poids lourds dans une danse violente. Prix Pulitzer, d'expression corporelle, une collision de bulldozer, un triple accident de char d'assaut. Car il va falloir que tombe l'un de ces deux garçons ce soir. Ce soir, l'un de nous deux doit tomber en public, depuis ton visage sur mes miroirs. Couche-toi vite, j'ai une histoire à fonder, cela implique que ce soir, l'un de nous deux doit tomber en public, depuis ton visage sur mes miroirs. Couche-toi vite, j'ai une histoire à fonder, cela implique que ce soir. Les vrais fous se font pas interner, ils rêvent les yeux ouverts, poings fermés, de façon y a pas de sous-métier, encore moins celui de champion du monde entier, tellement ne savent pas, quand t'es seul sur le ring, j'en ai vu dans ce cas, leurs jeans sentaient l'urine, la vie est ironique, s'échapper des ruelles pour vivre de duels, à la fin y aura qu'un type à l'horizontale, le respect est mutuel, mais ce soir, l'un de nous deux doit tomber en public, depuis ton visage sur mes miroirs. Couche-toi vite, j'ai une histoire à fonder, cela implique que ce soir. L'un de nous deux doit tomber en public, depuis ton visage sur mes miroirs. Couche-toi vite, J'ai une histoire à fonder. Cela implique que ce soit la tête haute, le corps aéroporté.
Il était deux fois Arthur, c'est édité dans la collection Air Libre, un scénario de Nin Antico avec les dessins de Grégoire Carlet. Vous vous connaissez bien sûr depuis longtemps, ouais. Puisque ce projet, comme on vient de l'entendre, ce projet, ça faisait des années que Nin Antico le laissait germer. Vous avez décidé d'opter pour un noir et blanc. Pour raconter cette histoire, pourquoi ?
Alors, en fait, je crois que dans mes souvenirs, c'était plutôt Nin qui tenait. Moi, j'étais assez ouvert à travailler la couleur, mais en fait, le consensus a été assez vite tranché. Enfin, on a assez vite trouvé un consensus sur le noir et blanc. Après, je pense que ça colle bien à l'esthétique, au ton, surtout aussi au ton de Nin qu'elle a insufflé au personnage. À l'histoire, à l'ambiance.
La bande dessinée laisse une belle part au combat de boxe.
C'est assez drôle quand on regardait. Alors, ce qui est assez fou, c'est que les matchs de Johnson ont souvent été filmés. C'est peut-être les premières compétitions sportives, d'ailleurs, qui ont été filmées, qui ont été portées sur le pellicule. Et on en trouve. C'est assez touchant de voir, en fait, de le voir. Et on se rend compte que la boxe de l'époque n'avait pas grand-chose à voir aussi avec la boxe d'aujourd'hui. Donc, c'est pas du tout la même gestuelle, c'est pas les mêmes corps, c'est pas les mêmes mouvements, il a fallu plutôt, enfin évidemment j'ai aussi regardé des choses beaucoup plus contemporaines, mais l'iconographie de l'époque sur Johnson est assez riche, donc ça m'a facilité la tâche.
Vous multipliez les pleines pages, même les pleines doubles pages.
Alors il a fallu aussi que pour pas m'ennuyer et puis pour pas ennuyer le lecteur que j'essaie de divers choix, que je prenne, aller dans différents sens pour direction pour la mise en page, parce que après c'est surtout la première partie du bouquin où on trouve beaucoup de matchs de boxe avec Johnson. Après dans la deuxième partie on en trouve quasiment plus, et donc évidemment moi pour pas ennuyer le lecteur, il a fallu que je multiplie les tentatives de cadrage et de mise en scène. Surtout c'est du travail de mise en scène, quoi, pour varier les approches, quoi.
Bon, le fait de travailler à partir d'un storyboard de la scénariste qui par ailleurs est dessinatrice, donc c'est contraignant ou pas?
Non, en fait c'était pas contraignant dans la mesure où on s'était mis assez vite d'accord, enfin tout de suite, sur le fait que c'était pas que j'avais pas besoin de me tenir à la lettre au découpage qu'elle m'avait donné. C'était un découpage indicatif pour me donner les scènes qui devaient rentrer dans chaque planche. Après, en ce qui concerne vraiment la mise en page, les cadrages, le découpage, là j'étais libre de faire un petit peu ce que je voulais, quoi. Elle avait fait un découpage assez classique en trois bandes, et pour, on va dire, à titre indicatif, et ça m'a permis moi après de broder autour. Quand c'était pas nécessaire, je gardais son découpage s'il était justifié. Et c'était un découpage aussi, une mise en scène assez proche des personnages. Et moi, j'aime bien m'amuser aussi dans les décors. Donc dès que j'ai pu un petit peu ouvrir les cases pour y mettre plus de décors, un peu plus de choses pour varier aussi la lecture, j'essaie de le faire au maximum.
Et quel est votre rapport maintenant aux deux personnages que vous avez dessinés, qui ont existé, dont la vie a été revue par la scénariste Nin Antico? Vous pensez quoi de Jacques Arthur Johnson? Vous pensez quoi d'Arthur Cravan?
Bah, Cravan, lui, c'est quelqu'un que je connaissais un petit peu, mais pas beaucoup plus que ça quand même. Et il est quand même, il baigne dans une période d'art moderne, donc ce qu'on appelle, disons, l'art moderne à la fin du 19e, début 20e, qui est vraiment importante. Et moi, j'aime beaucoup la peinture et toute la peinture de cette période-là. Et c'est quelqu'un qu'on retrouve après dans d'autres choses, dans plein de lectures, dans des catalogues d'expos sur d'autres choses, sur d'autres peintres. Il y a plein de liens. Cravan permet de faire pas mal de ponts entre les différentes disciplines de l'époque, ce qui allait du symbolisme au dada. Et ça a été tellement riche. Donc moi, c'est un personnage qui me fascine aussi pour ça. Et on pourrait croire que c'est un peu un trublion on pourrait peut-être penser que c'est une coquille vide qui avait envie juste d'être sur le devant de la scène. Mais après, quand on lit ses poèmes, on se rend compte qu'il y avait une réelle profondeur dans le personnage aussi, quand même.
Et Jacques Arthur Johnson?
Donc lui, je le connaissais juste de nom. Je savais ce qu'il était. Et c'est quelqu'un qui m'avait tout de suite aussi vachement branché par rapport à l'iconographie qu'on pouvait représenter de l'Amérique de l'époque aussi.
L'Amérique du début du XXe siècle.
Début XXe. Donc c'est vrai. vraiment juste la fin de l'abolition, enfin le début de l'abolition de l'esclavage, de l'esclavagisme, mais c'est le début des lois de ségrégation. Je pense pas que, enfin on le dit, enfin c'est ce qui est dit dans le livre, c'est que Johnson se battait pas vraiment pour la cause des Noirs, évidemment, parce que de toute façon à l'époque, ça aurait été très dangereux d'affirmer, enfin une telle cause aux yeux de tout le monde. Mais c'est un personnage.
Mais il était aussi individualiste que Arthur Cravant.
Exactement, c'était un personnage tout autant individualiste. Et après, ce qui est génial avec lui, c'est comme il adorait se prendre en photo et rouler dans des grosses voitures. Il y a une iconographie assez riche sur le personnage. On trouve beaucoup de choses, c'est assez émouvant de voir.
Et au détour de cette histoire entre les deux Arthur, on apprend que Jack London n'a pas été très tendre vis-à-vis de Jack Arthur Johnson.
Ouais, grosse déception.
Bah oui, c'est là, en lisant votre bande dessinée, il était à la limite raciste, non ?
Pas à la limite. Hein. Non. Bah bon, après, je pense que c'est là un reflet de son époque, de l'Amérique aussi de l'époque, mais c'est vrai que ça a tout un pan de mon enfance qui s'est écroulé quand j'ai découvert ça. Ouais. Et ouais, il a été très très, il a eu des mots, enfin vraiment horribles et très très durs et très, enfin voilà, qui exprimaient un gros racisme. Ouais, c'est clair. Mais c'est pas le seul. Hein, il y en avait, enfin de toute façon, toute l'Amérique. Quand même, ce personnage de Jack Johnson a eu quasiment un pays entier sur le dos pendant plusieurs années. C'était l'homme à abattre numéro un aux États-Unis. Quoi. Ils ont tout fait pour le destituer, en fait.
Mais pas seulement parce qu'il était chanteur, parce qu'il osait avoir des histoires d'amour avec des femmes blanches.
Oui, oui. Mais c'est comme ça qu'il s'est fait pincer. On l'a accusé de proxénétisme alors qu'il était marié avec sa femme, quoi. Et en passant d'un état à l'autre, on a invoqué une obscure loi du Mann Act sur la traite des blanches. Enfin, un truc très tiré par les cheveux. Et bon, bref, ça a suffi puisque tout le monde attendait que ça pour le faire couler. Et donc, c'est pour ça qu'il a fui. S'il était resté aux États-Unis, il devait couper d'un an de prison. Et c'est comme ça qu'on le retrouve à Barcelone après, sur le match avec Cravant.
Le fameux match.
Oui.
Le fameux match. J'en dirai pas plus. Hein. C'est à propos d'Il était deux fois Arthur, cette bande dessinée qui sort dans la collection Air Libre de chez Dupuis. Grégoire Carlet, comme vous êtes là, ce serait bien de résumer un peu votre vie. Hein. Comment résumer un peu votre parcours à ceux qui n'ont pas lu vos premiers livres édités par l'association, qui n'ont pas lu Bakou? Comment vous êtes arrivé à la bande dessinée?
Moi, j'ai fait un parcours assez classique. J'ai fait la section illustration des Arts Déco, enfin de la IR maintenant. À l'époque, on appelait ça les Arts Déco de Strasbourg. Et j'ai eu beaucoup de chance d'avoir Jean-Christophe Menu de l'association à l'époque dans mon jury de diplôme. Et en fait, du coup, on parlait de Bakou, c'était ma première bande dessinée. C'était mon projet de diplôme qui a été édité à l'association par la suite. Et c'est comme ça que, tout simplement, que ça a commencé.
Mais avec une envie de devenir auteur de bande dessinée ?
Bien sûr. Après, je me voyais peut-être plus, à l'époque, peut-être un peu plus touche à tout, aussi peut-être plus dans l'illustration, dans différentes choses. Et puis finalement, c'est-à-dire cette rencontre a donné tout de suite un départ et une direction, en fait, à ma carrière et à mon travail, surtout, à mon travail d'auteur. Ouais.
Auteur, donc, oui. Auteur de bande dessinée.
C'est ça. Et bon, après, je suis parti à Paris quelques temps après mon diplôme. Et c'est dans les soirées à l'association que j'ai rencontré Nine et on s'est retrouvé dans le même atelier après avec les Requins Marteaux à Paris. Et donc, c'est à ce moment-là, moi, je travaillais sur mon avant-dernier album à l'association qui s'appelait Philoctète et les Femmes. Et à ce moment-là, je me rappelle qu'elle avait déjà le pitch d'Éditer deux fois Arthur et qu'elle m'en parlait déjà, quoi. Et bon, moi, j'avais d'autres projets que j'ai dû mener pendant ce temps. Et on s'est retrouvé à Marseille il y a 2 ans où j'ai travaillé sur un film, sur les décors d'un film d'animation où elle vit à Marseille maintenant, Nine. Mmh. Et c'est là qu'elle venait de terminer son scénario et elle m'en a parlé. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça, tout simplement.
Elle disait tout à l'heure, Nine Anticot, qu'elle était plus à l'aise à dessiner les femmes que les hommes. Diriez-vous la même chose, Grégoire Carlet, que vous préférez dessiner les hommes plutôt que les femmes?
Non, en fait, j'ai fait un album où il y a quasiment que des femmes. En fait, peut-être les femmes, donc c'était pas, je crois pas. Non, j'aime bien les deux.
Il n'y a pas de différence, non?
Non, enfin, si, il y en a beaucoup, mais... Il s'agit de se trouver des tics personnels qui peuvent aussi s'éloigner des stéréotypes qu'on trouve habituellement pour se faire sa propre...
Autrement posé la question, est-ce que vous vous mettez à la place de tous les personnages que vous dessinez?
Souvent, quand on est en train de dessiner, on est vraiment, enfin moi en tout cas, je me sens vraiment immergé dans, c'est presque un travail d'acteur où quand le personnage parle, je me fais la voix dans la tête. C'est vrai que le fait de faire de la bande dessinée, ça rassemble plein de métiers, enfin plein de métiers du cinéma. On est scénariste, on est dialoguiste et même acteur puisque il y a pas mal de plans. Où je me suis, j'avais une idée en tête et je trouvais pas forcément de photo ou quoi, et je me prenais en photo. Et donc on retrouve beaucoup mon corps dans cette bande dessinée.
Bah, vous êtes bien bâti, il faut le dire.
J'ai rajouté quand même pas mal de muscles autour, mais c'était juste pour certains plans. Hein.
Et quand il s'agit de représenter une femme, se mettre dans la peau, dans la psychologie d'une femme.
Peut-être que c'est évidemment pas aussi évident. Mais si, il y a quand même quand je dessinais Mina Loy, quand elle parlait, j'avais quand même sa voix, en tout cas la voix que je m'étais imaginée de Mina Loy dans la tête au moment où je lui mettais une bulle au-dessus et que la faisais parler.
Le réveil culturel de Tufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr.
Et on retrouve dans les bonnes librairies la dernière bande dessinée donc de Nina Antico et de Grégoire Carlet. Je dis la dernière bande dessinée comme si vous en aviez fait d'autres. Non, c'est votre première collaboration. Il était deux fois Arthur sur ce match, ce drôle de match et cette drôle de rencontre entre ces deux Arthur, Arthur Cravant et Jacques Arthur Johnson. Merci d'être passé ce matin.
Eh bien, merci à vous. Merci.